Там-там, etc.
Etc. Там-там-там-там-там-там-там.
Je ne sais pas pourquoi, chez nous en Algérie, aucune mayonnaise ne prend. Dans le monde entier, on dit, et c'est devenu proverbial, lorsqu'un peuple coule, quand il arrive au fond, il remonte. Nous, quand on arrive au fond, on creuse.
Et immédiatement, retour sur un dîner. Ça n'a l'air de rien, un dîner, s'asseoir autour d'une table, déplier sa serviette, faire son marché dans le menu, un peu de vin, pas de refus. Mais ce dîner-là était épicentre, fait pour être vu. Nous sommes samedi soir, rappel de la tourmente très médiatique, samedi, dans son édition du début d'après-midi. Le journal Le Monde vient de donner une info à deux détentes. Un, Xavier Couture viré de Canal+, deux, sa femme Claire Chazal menacée à TF1. Le soir même, Claire Chazal, toujours en poste, aux 20h, sa voix est chevrotante, c'est impressionnant, elle est donc faire un tour sur le site internet de TF1. Et puis le dîner, donc destiné, le dîner à démentir par le menu. Qui voit-on le soir même dans un hôtel-restaurant très branché de Paris? Le couple Lelay, Patrick Lelay, patron de TF1 et sa femme, et le couple Couture, Xavier et Claire. Regardez comme ils s'entendent bien. Il n'y aurait pas quelques journalistes dans le coin? Faut que ça se sache, faites le nécessaire. Et effectivement, ça se sait dès le lendemain. Opération Il faut sauver la soldate Claire. Non, elle n'est pas en danger. Le démenti par le dîner, vous ferez une note de frais. La petite histoire, qui elle se nourrit souvent d'ironie, raconte d'ailleurs que Pierre Lescure dînait samedi soir dans le même restaurant croustillant. Non, Lescure qui avait été viré de Canal et remplacé, rappelons-le, par Xavier Couture, là, ça devient du prêt-à-porter. Depuis, on a aussi appris, de sources sûres mais pas confirmées, que proposition avait été faite, peut-être entre la poire et le fromage, à Xavier Couture de revenir à TF1, tandis qu'un des dirigeants de TF1, Guillaume de Vergès, était attendu à Canal. Bref, un dîner pour un menu qui tient au corps. À Canal, pendant ce temps-là, se prépare un régime minceur draconien. Combien de salariés dans le nouveau plan social? Invité Tam Tam ce matin, deux femmes algériennes qui témoignent. Yamina Bachir-Chouir a signé un film, Rachida, présenté au dernier festival de Cannes dans la catégorie Un certain regard, et sorti début janvier dans les salles. L'histoire d'une jeune femme de 20 ans, institutrice à Alger, cernée par le terrorisme. Mais comment être rebelle face à la terreur? Bonjour Yamina Bachir-Chouir, vous allez bien?
Bonjour, oui. Ça va très bien.
Est-ce que vous êtes contente de l'accueil en France de Rachida?
Oui, je suis contente tout simplement parce que quand c'est très difficile de faire voir ce genre de film et la manière dont il a été présenté, je ne peux être que contente forcément.
D'autant que vous aviez mis 5 ans à le monter ce film?
5 ans, le montage financier a duré 5 ans. Oui.
Est-ce que votre film a été vu en Algérie?
Oui, le film a été vu en Algérie. Il est sorti pas dans beaucoup de salles parce qu'il n'y a pas assez de salles pour ça et j'avais pas assez de copies non plus pour le faire sortir, mais sinon le film a été beaucoup vu, surtout dans la capitale, à Tizi aussi, et là on essaye de le faire voir un peu à travers toute l'Algérie.
Et réaction alors en Algérie?
Très bonne réaction, un public, c'était étonnant. Ça fait des années, je pense, depuis la bataille d'Alger, il n'y a pas eu autant de monde où les gens se déplacent en famille pour aller voir un film. Donc, pour le film Rachida, c'est réellement la famille algérienne, dans le vrai sens du terme, qui s'est déplacée pour voir le film.
À vos côtés, l'écrivain, poète et professeur Soumia Amar-Khodja, bonjour.
Bonjour.
Alors vous sortez un recueil de nouvelles aux éditions du Reflet. C'est le quotidien des femmes au sein de la société algérienne, entre terrorisme et poids des traditions religieuses. Ça s'appelle « Rien ne me manque ». Ça veut dire quoi? C'est une expression arabe?
Oui, c'est une expression qui revient à chaque fois pour dire, pour exprimer la vie, pour dire...
C'est difficile de traduire. Hein,
Oui, c'est-à-dire c'est l'auto-interdiction de la plainte. Hein. Du moment que je mange, que je bois, que je vis, que la vie est là, rien ne me manque, même si des choses très graves sont vécues. Hein. Et très souvent, les femmes le disent.
Et comment ça se dit en arabe alors?
Alhamdulillah, walumay khasne. Avec des versions selon les villes, selon les régions d'Algérie.
Vous vivez en France depuis 1994. Vous avez dû quitter l'Algérie?
Oui.
Parce que c'était plus possible pour vous là-bas?
Non, parce que ce n'était plus possible. J'aurais bien voulu rester. Moi, je demandais rien. J'étais contente jusqu'à jusqu'à une certaine date, j'avais mon travail, j'avais mes amis, j'avais mon association, j'avais mon équipe de recherche, mes collègues. Oui, j'aurais bien continué, mais ce n'était plus possible.
Deux femmes algériennes ce matin dans Tam Tam. Nous allons parler du quotidien dans un pays en proie à la terreur, avec également des mariages forcés, des femmes violées, répudiées, et une certaine façon de résister dans ce climat-là. 10h-10, Nicolas Poincaré, et le climat d'avant-guerre présumé. C'est le règne en ce moment du mensonge. Mensonge américain, mensonge irakien, et aussi mensonge des anti-guerres. Tam Tam jusqu'à 10h, bonjour. Il naquit à Pittsburgh, États-Unis, en 1928, sous le nom d'Andrew Warola. En 87, il meurt à l'âge de 58 ans, sous un nom devenu mythique. La Maison des États-Unis à Paris propose depuis hier une exposition consacrée à Andy Warhol. Illustrateur, roi du pop art, il avait fondé un lieu de création et de folie, The Factory, à New York, East 47e rue. Il eut aussi le Velvet Underground et un film Chelsea Girl. Hommage à Andy Warhol à la Maison des États-Unis, dans le 6e arrondissement de Paris. Voici le No Comment du jour, chasseuse de son Caroline Cartier.
On regarde Chelsea Girls.
Chelsea Girls, l'un des rares films multi-écran de Warhol. Je veux le son sur ondine. Voilà. Alors, cette séquence-là est en noir et blanc. Sur l'autre écran, nous avons Nico en couleur qui pleure. Ondine se shoot, on voit ça en assez gros plan, et on va voir les effets de ce shoot progressivement s'épanouir.
De suite, la voix de Andy Warhol.
No.
Ce qui est au cœur de Warhol, c'est en fait la fabrication de sa propre image.
Oui,
tout à fait.
Oui.
Il dit, j'aime simplement refaire toujours la même chose. Quand quelqu'un vient d'être élu président ou maire, on colle son image sur tous les murs. Je crois toujours que c'est mon œuvre. C'est un moyen de s'exprimer. Toutes mes images sont pareilles, mais différentes à chaque fois.
S'épanouir.
Les portraits, Mao, les fleurs, les vaches.
Les lèvres rouges de Marilyn.
Toutes mes images sont pareilles,
électrique.
Mais différentes à chaque fois. Elles changent avec la teinte des couleurs, le moment, l'état d'esprit. La vie n'est-elle pas une série d'images qui changent en se répétant?
When a mirror gazes into a looking glass, what does it see?
Quand un miroir se regarde dans la glace, qu'est-ce qu'il voit?
My name is Andy Warhol, and I just finished eating a hamburger.
I be a mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light in your eyes.
Je suis sûr qu'en regardant dans le miroir, je ne verrai rien. Les gens disent toujours que je suis un miroir. Si un miroir regarde dans un autre miroir, qu'est-ce qu'il peut bien voir?
Cinéaste, dessinateur, peintre, photographe, écrivain, collectionneur, éditeur, c'est le personnage Andy Warhol, personnage surdoué, qui veut tout voir, tout connaître et surtout tout vivre.
Progressivement, s'épanouir.
Il a vécu l'instant social, l'instant mondain, l'instant de la peinture, l'instant historique. C'est cette force qui lui a permis de réaliser une œuvre d'une modernité extraordinaire.
Ça vous importe ce que les gens pensent de vous? On a fait de vous une réputation, Andy Warhol. Je ne comprends pas ce que vous...
Well now Andy, I guess we've gotta go. I wish some way, somehow... You like this little show? Goodbye, Andy.
êtes au courant, j'espère, il y a un nouveau Massive Attack, le premier single qui vient de débuter Tam Tam à 9h22 sur France Inter, ça s'appelle Special Cases, et pour la voix, vous aurez peut-être reconnu Sinead O'Connor. D'un seul coup, je m'adresse à mes deux invités, d'un seul coup j'ai eu un peu honte parce que j'ai fait une petite introduction sur les remous très médiatiques entre Canal+ et TF1, et je me dis que tout ça, il y a des tas de choses qui doivent vous sembler très dérisoires, non ?
Non, je pense que chaque situation a son contexte, c'est tout.
Ouais. Pas plus que ça, ça vous paraît pas, enfin par rapport évidemment à la situation en Algérie, comment est-ce qu'on arrive à s'intéresser à autre chose ?
Heureusement qu'on arrive à s'intéresser, parce que sinon ce serait dramatique pour nous de ne pas pouvoir essayer, surtout qu'au quotidien c'est pas facile, on essaye de survivre, pas de vivre, de survivre. Donc ça nous, pour moi, ça décompresse un peu, même s'il y a des petits problèmes ailleurs qui sont grandis, qui sont amplifiés. Et c'est vrai que ça peut paraître dérisoire par rapport au drame dans lequel est plongée l'Algérie, mais c'est une bouffée d'air pur, parce qu'on se dit ailleurs il y a des gens qui se disputent pour des petites choses de la vie.
Oui,
donc ça relate.
Dans le meilleur des cas, oui. Yamina Bachir Chouir, vous avez signé un film, Rachida. Vous êtes ce matin en compagnie de Soumia Markodja, qui n'est pas professeur, contrairement à ce que je disais tout à l'heure. Mais vous animez des conférences dans l'Est de la France, c'est ça ?
Oui, des conférences, des ateliers d'écriture. Et j'appartiens également à une équipe de recherche féminin-masculin de l'Université de Cergy-Pontoise.
Une équipe de recherche masculin-féminin.
Féminin-masculin.
Oui. Et réciproquement, qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Eh bien, cela veut dire qu'on étudie toutes les représentations du féminin et du masculin dans la littérature, dans la langue, dans le cinéma. Personnellement, je travaille sur les journaux personnels de femmes.
Les journaux intimes ?
Oui, les journaux intimes. C'est un domaine très riche et très vaste, et c'est animé par des gens très intéressants, notamment Christiane Chollet-Achour et Michel Roland. Voilà.
Alors vous, Soumia, on l'a dit tout à l'heure, vous avez quitté l'Algérie en 94, c'était pas un choix, vous avez dû le faire. Et vous, Yamina, vous vivez toujours à Alger. Est-ce que déjà, c'est une situation qui est différente pour l'une et pour l'autre ? Est-ce que vous, Soumia, vous avez pu prendre un recul éventuellement avec la situation en Algérie ?
Vivant en France, donc je vis en France depuis 1994, l'Algérie est toujours là, est toujours dans ma tête, parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a les amis. Mais en même temps, c'est vrai que par le biais de l'écriture, je me situe dans une distance, voilà.
Et dans cette distance, oui. Ça veut dire de la clairvoyance, ça vous a appris des choses, ça vous a fait voir la situation de manière un petit peu différente, vue d'ailleurs.
Je ne sais pas si ça m'a rendue plus clairvoyante, je ne sais pas. Mais en tous les cas, comment le dire ? Pour moi, de toute façon, l'écriture, mon écriture ne concerne pas seulement donc la réalité contemporaine de l'Algérie. Bon, les nouvelles sont multiples. Si vous voulez, j'ai été longtemps habitée par des voix de femmes, par des visages de femmes qui appartiennent à une mémoire personnelle. J'en étais habitée, je ne le savais pas, et avec le recul, ces voix ont résonné en moi.
C'est-à-dire, c'est en écrivant que ces voix sont apparues. Vous n'aviez pas conscience de les porter en vous.
Non, parce qu'il y a aussi le temps. Le temps, il y a la durée. C'est avec la durée que je me suis aperçue que je portais ces voix. Donc, il y a les voix du passé, des voix de femmes, et bien sûr celles du présent. Il y a une sorte de va-et-vient, une sorte de jonction entre ces réalités.
Vous diriez que le temps apporte des choses favorables pour la situation de la femme, ou que ça n'évolue pas tellement, finalement ?
Non, c'est vrai que la réalité est très dure, très difficile. Mais en même temps, ce qu'il faut, je crois, retenir, c'est que des réalités très contradictoires, très opposées, coexistent en Algérie. Et je crois que des amis français ont parfois du mal à voir cette réalité. Dans une même famille, et je pense que Yamina pourra le conforter, dans une même famille, vous pouvez avoir, comme les familles sont souvent nombreuses, hein, vous pouvez avoir des sereinés analphabètes, hein, et vous pouvez avoir parmi les plus jeunes des sœurs, moi j'ai des collègues comme ça, hein, des sereinées analphabètes, et elles-mêmes elles sont universitaires, etc. Donc c'est des réalités très contradictoires qui existent dans toute la société. Donc la réalité, elle est très dure, mais en même temps elle est pleine de vie.
Est-ce qu'on peut dire grossièrement qu'on s'en sort mieux dans les villes en Algérie que dans les petits villages où c'est encore plus compliqué que ça?
Je pense que dans les grandes villes, et notamment à Alger, et je pense que Yamina pourra encore mieux le dire, les choses sont, je pense, plus faciles. Il y a des possibilités qui n'existent pas dans d'autres villages. Il y a quand même des cafés littéraires aussi. Enfin, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, mais vous avez des librairies qui vivent, qui invitent des écrivains. Il y a quand même des salons du livre qui se tiennent. Voilà, c'est ces réalités-là très contradictoires qui sont tout le temps à l'œuvre en Algérie.
Yamina?
Non, mais je suis d'accord avec Soumeya, parce que c'est vrai qu'on est une société très paradoxale. De l'extérieur, on a l'impression que c'est inextricable, mais quand on vit à l'intérieur de cette société, tout simplement parce que le temps va plus vite que nous. Va plus vite que nous, donc on est pressé, que les choses changent très très vite. Et tout ça se fait dans des chocs. Comme elle disait, on peut trouver dans une même famille des filles. C'est vrai que dans les grandes villes algériennes, les choses ont évolué un peu plus vite. À l'intérieur du pays, c'est encore des traditions qui existent. Ceci dit, je ne veux pas dire par là que à Alger ou dans les grandes villes, ces traditions n'existent pas. Donc il y a une coexistence comme ça qui se fait des fois. Avec un peu d'harmonie et la plupart du temps dans des chocs terribles entre l'archaïsme et cette envie d'exister et d'être, de fonctionner avec son temps.
Alors un mot peut-être de l'année de l'Algérie en France, Jazaïr, plus de 2000 manifestations culturelles ou à caractère historique sont programmées. D'ailleurs demain le président algérien Abdelaziz Bouteflika sera à Paris, reçu à l'Élysée avant un voyage de Jacques Chirac à Alger début mars. Vous en pensez quoi, Yamina? Parce qu'il y a certaines critiques autour de cette...
Non mais j'ai entendu parler des critiques autour de cette saison. Moi ce qui m'étonne c'est que la France, j'arrête pas de le dire, la France a l'habitude de recevoir des pays qui exposent, qui mettent en avant leur culture. Bon, pour l'Algérie, c'est encore dans la douleur que les choses se font, alors que c'est une saison culturelle. C'est pas une... Pour une fois, on parle de l'Algérie, pas avec des armes, c'est pas une Algérie belliqueuse qui arrive, mais une Algérie où il y a une fenêtre sur sa culture. Et c'est encore une fois, le problème de l'Algérie est transporté en dehors des frontières algériennes. Et c'est vrai que ce n'est pas une saison banale, c'est une saison... algérienne, quand on connaît l'histoire douloureuse entre ces deux pays, avec beaucoup de passion, de haine, des non-dits, et donc tout se mêle. On a tendance, on a du mal, que ce soit en Algérie ou ici en France, à faire la part des choses, de prendre les choses telles qu'elles se présentent. On est encore dans la passion entre ces deux pays. Ce qui fait que cette saison, il y a eu beaucoup de polémiques autour. Voilà, je pense que c'est surtout pour ça. Parce qu'il y a eu la saison marocaine, il n'y a pas plus de démocratie au Maroc et en Tunisie et dans d'autres pays qu'en Algérie.
Donc laissons la vivre cette année algérienne.
Oui, à mon avis, oui, il faut essayer d'avoir un peu de générosité pour pouvoir s'accepter les uns et les autres. Le monde manque tellement de générosité, et avec l'Algérie, c'est encore plus fort. On pénalise, j'ai l'impression qu'on est en train à chaque fois de pénaliser le peuple algérien. On peut ne pas être d'accord avec un État, je suis d'accord, mais pénaliser tout un peuple, je trouve ça lamentable, lamentable.
En tout cas, il y a sans doute des correspondances entre, d'une part, votre livre de nouvelles, soumis à Marco Djar, Rien ne me manque, et puis le film que vous avez réalisé, Rachida, Yamina Bachir Chouik. On va écouter tout de suite un extrait, hein, de votre film. Donc, Rachida est institutrice à Alger, elle a 20 ans, elle refuse de poser une bombe, et finalement, reçoit un coup de feu dans le ventre, donc elle part dans un petit village en compagnie de sa mère. Rachida, extrait.
Je ne me sens plus à Alger.
Si, tu vas venir chez moi. D'ailleurs, c'est moi qui viens te chercher.
Pas question.
Je t'ai ramené ça.
Oui, je peux le dire.
Et ça. Et tu sais, Tahar, il s'inquiète. Hein? Il veut savoir où tu es.
في ليلة السادس والعشرين إلى السابع والعشرين مارس الماضي ويضاف قيال هؤلاء الربان إلى الاغتيالات الوحشية التي اقترفتها الجماعات الإرهابية.
Découverte des corps des sept moines français assassinés par le GIA à quelques kilomètres de la ville de Médéa, Alger, Selim Bater.
Oui, le doute n'est plus permis. Les forces de sécurité algériennes ont bien retrouvé les corps des sept moines trappistes enlevés par le GIA.
Voilà, on a évidemment rajouté un son d'actualité.
Oui, je comprends, c'est en arabe. C'est bien que les auditeurs comprennent ce qui se dit dans le film.
Votre héroïne, Rachida, c'est une rebelle.
C'est pas une rebelle, Rachida, non, c'est pas une rebelle, c'est une Algérienne normale. C'est une citoyenne normale qui ne demandait, ce n'est ni une militante ni rien, c'est une citoyenne. Tout simplement, qui a envie de vivre.
Elle n'accepte pas cette situation.
Et qui subit la violence, elle l'accepte pas parce que elle se rend compte quand même que c'est l'horreur de déposer une bombe dans une école. Donc elle refuse d'abord par peur et elle a conscience que c'est horrible. Son geste peut être horrible si elle l'accepte. Donc elle a eu le courage de refuser, mais seulement à aucun moment je l'ai située comme une héroïne. Elle subit, et le seul moment où elle essaye, comme tout le monde en Algérie, d'essayer de naviguer dans cette violence. Et ce n'est qu'à la fin du film où elle résiste, parce que partant d'Alger, où elle subit son attentat, elle se dit, je vais me réfugier dans un autre village pour échapper à la violence, pour revenir à l'anonymat, parce que son attentat l'a tiré de son anonymat par rapport à son quartier.
Et ça devient dangereux, encore plus dangereux.
Ça devient dangereux pour elle, parce qu'elle est sortie de l'anonymat. Tant qu'elle est dans l'anonymat, elle se sentait en dehors du conflit. Ça, c'est les Algériens, la plupart des Algériens pensaient au départ être en dehors du conflit. Donc elle va dans un village en se disant, je vais échapper à la violence, mais comme elle a été touchée, les autres sont habitués à cette violence aussi. Mais elle, avec son drame, son regard est plus perceptible à la violence. Donc elle commence un peu dans ce village à se rendre compte que la violence est là. Et quand la violence extrême arrive encore dans ce village, c'est au lendemain de cette violence extrême, c'est à ce moment-là où elle résiste, parce qu'elle se dit, bon, la violence est là partout. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Je n'ai plus rien à perdre, donc il faut résister.
Résister et comment supporter tout ça? C'est un petit peu peut-être la question essentielle, surtout quand on est une femme en Algérie. Nous en parlons ce matin dans Tam Tam.
On her way to work one morning down the path long at the lake. A tender-hearted woman found a poor half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. Poor thing, she cried, I'll take you in and I'll take care of you. Take me in, tender woman, take me in for heaven's sake. Take me in, tender woman, sighed the snake. She wrapped him up all cozy in a comforter of silk and laid him by the fire with some honey and some milk. She hurried home from work that night, and soon as she arrived, she found that pretty snake she'd taken and had been revived. Take me in, tender woman, take me in for heaven's sake. Take me in, into her bosom. You're so beautiful, she cried. And if I hadn't brought you in by now, you might have died. She stroked his pretty skin again and kissed and held him tight. Instead of saying thanks, that snake gave her a vicious bite. Take me in, tender woman, take me in for heaven's sake. Take me in, tender woman, sighed the snake. Lost saved you, cried the woman, and you've bitten me, but why?
Chivari, un inédit de Snake, et je précise que les you-you qui étaient avant Chivari ne sont pas d'elle, mais de vous, Rachida, en tout cas, c'est la partie.
C'était joli. C'était joli, un très beau mélange.
Oui, oui, c'est bien le mélange. Rachida, finalement, elle peut figurer dans votre recueil de nouvelles, Rien ne me manque, Soumya Marcoja. J'aimerais bien que vous nous lisiez un extrait d'une des nouvelles, c'est page 113, c'est moi qui l'ai choisi, hein, mais j'espère que ça vous ira, vous aussi.
Oui. Mais il faut dire que c'est pas l'unique représentation des femmes.
Non, oui. Mais on va en parler.
Voilà. Donc, page 113. Bardée d'or. Boucles, chaînes, bracelets. Elle parle. 6 enfants en pratiquement 6 ans de mariage. Son époux voulait absolument des fils. À la 5e grossesse, il la menace. Si ce n'est pas un enfant mâle, c'est le renvoi définitif pour elle et ses filles. Mais Dieu l'aima, car ce fut un garçon. À peine 30 ans, et le corps déformé. Elle ne sort jamais, sauf pour les fêtes strictement familiales et religieuses. Circoncision. Mariage. Elle ne reçoit pas d'amis. N'a pas le droit de s'approcher des fenêtres. Il lui a ordonné de porter le hijab. Hijab noir. Elle a d'abord refusé. Il l'a convaincue à coups de poing. Elle s'y est résignée et a fini par croire que c'est une bonne chose. Elle a la permission de se maquiller, de se faire belle, de porter des bijoux, de faire les 100 pas si bon lui semble, à l'intérieur de sa maison. Bardée d'or. Et son cœur étouffe.
Son cœur étouffe. Voilà, vous disiez, vous teniez à préciser que ça n'était pas la seule représentation du quotidien de la femme, mais quand même, il y a ça aussi. C'est-à-dire, non seulement il y a ce pays pris dans la terreur, hein, je crois que les mots sont justes, ils sont pas trop forts, et puis...
Oui, vous avez raison.
Ouais, et puis en même temps, une situation personnelle, familiale très particulière, ça fait beaucoup, non?
Oui, ça fait beaucoup. Mais c'est sûr que toutes ces dernières années, la décennie 90 a été très dure, terrible. Mais en même temps, peut-être que je suis un peu têtue. La vie est très forte. Et encore une fois, je n'amoindris pas la réalité. C'est vrai, hein, ce que vous dites. C'est vrai. Mais en même temps, c'est accompagné d'un très fort désir de vivre. Les gens sortent, les gens se marient, les gens. Et je crois que c'est le propre aussi des pays ou des pays qui vivent des situations très très dures. Voilà, c'est à la fois très très complexe. Voilà, c'est des situations complexes. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est les situations complexes,
oui, c'est
ambivalentes.
C'est complexe, c'est contrasté.
C'est vrai qu'il y a une violence terrible. On parle des années 90, mais cette violence existe depuis avant 90. Déjà en 88, on a brûlé des femmes parce qu'on a estimé qu'elles étaient de mauvaise vie. Les femmes de Wolgla, elles ont été brûlées dans leur maison. Donc cette violence existe depuis longtemps. À cela se rajoute une violence de la société exercée sur la femme. exercée sur les enfants, sur les jeunes. La violence terroriste, ce n'est que l'extrême violence qui est encore venue se rajouter sur des violences exercées sur la population. Et sur la femme, sur le plan de la société, des traditions et aussi de la gérance de ce pays, comment on a géré. C'est vrai que après l'indépendance, c'est vrai qu'on a eu, et c'est notre droit, ça, on doit même plus revenir dessus et en parler comme si c'était un acquis, que des filles ont pu être scolarisées, que des enfants ont pu être scolarisés, qu'on a pu vivre, heureusement, c'est un droit, ça. On revient pas dessus. Mais ce qui est important, c'est de dire ce qui ne va pas. Et ça, nous, on a besoin de le dire. C'est un besoin pour nous de le dire, de nous regarder, de ne pas laisser les autres nous regarder. Parce qu'à aucun moment, on nous a permis... On n'aime pas les miroirs. Dans nos sociétés, on n'aime pas les miroirs. On n'aime pas se voir et se regarder. Et c'est important pour nous de dire ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, mais avec beaucoup...
Parce que les miroirs sont dérangeants, c'est ça ?
Les miroirs dérangent, les miroirs enlèvent ce que j'appelle, j'ai l'impression de me redire, des fonds de commerce. Il y a des gens, des groupes, où il y a des situations qui les arrangent. Ça arrange et les uns et les autres. Et donc, on est dans un système où on a l'impression que cette société est en train de fonctionner sur plusieurs paramètres, pas sur un projet de société qui gère toute l'Algérie. Mais on n'a pas de projet de société et donc on a comme ça des situations où on dit il faut être comme ça, non, il faut être comme ça, il faut être comme ça, où on essaye de nous mettre dans des cases. Et ça, c'est terrible de vivre de cette manière. C'est terrible quand on ne sait pas, on n'arrive pas à se projeter. On n'arrive pas à se projeter dans un avenir. Les femmes, c'est vrai qu'elles font des études, qu'elles sont médecins, qu'elles sont chefs d'entreprise. Je parle des femmes et je parle aussi des hommes aussi. Mais seulement, ils n'arrivent pas à se projeter. Et il n'y a rien qui change autour. Il n'y a rien qui change autour. Et ça crée, c'est ça les paradoxes de ma société. C'est de ces paradoxes, je suppose que Soumya aussi veut en parler. C'est vrai que c'est très difficile de tout rejeter. Il y a tellement de belles choses dans cette société, dans ce pays. Il y a une belle culture qui nous nourrit. Il y a de la lumière, il y a des rapports humains magnifiques, il y a des gens magnifiques dans ce pays. Mais on est prisonnier entre le vouloir d'exister et le vouloir de rester ancré dans et se refermer sur soi.
Mais Yamina, quand vous montrez dans votre film en toile de fond, mais ça prend toute la place, ces femmes, donc ces jeunes femmes qui ne choisissent pas leur mari, donc qui il y a même une plaisanterie, ton borgne y va bientôt arriver, ces femmes violées qui en plus sont répudiées, etc. Oui. Tout ça, ça existe
ça,
encore.
Ça, c'est des réalités.
C'est des réalités.
C'est pour ça que je dis, moi, j'ai envie de parler de ce qui ne va pas. C'est ça qui est important, c'est de mettre le doigt sur des choses qui ne doivent plus exister ou qu'on doit régler ensemble. Ce qui marche bien, moi je ne reviens pas dessus. C'est normal, je trouve, c'est pas une fleur qu'on nous fait. Aller faire des études, c'est pas une fleur, c'est un droit. C'est un droit. Maintenant, c'est de mettre, de pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas. C'est ça qui est important pour pouvoir... on n'a pas les solutions, que ce soit moi ou Soumya, on n'a pas. On n'a pas ces solutions, on ne peut pas seul changer les choses. Mais au moins, on peut parler. C'est ça qui est important. Et de dire, c'est ça qui ne fonctionne pas.
Qui est-ce qui pourrait changer les choses ?
C'est tous ensemble qu'on peut changer les choses.
Il faut une impulsion politique ?
C'est important parce que c'est le politique qui gère un pays. C'est pas la société civile. La société civile ne peut dire que comme Soumya et moi, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. C'est pour ça que je parle de projet de société. Il faut qu'on ait un projet clair, que les gens arrivent à se débarrasser de tout et de pouvoir... regarder les choses et de dire et de placer les mots là où il faut. On a peur des mots, on a peur des réalités. Et ça crée à chaque fois des chocs et des chocs et des chocs. Là, en ce moment, on sort d'une situation difficile, dramatique, où il y a eu des milliers de morts. Des milliers de morts, des milliers d'orphelins. Parce qu'on parle pas aussi des orphelins. Et on a des orphelins qui sont les orphelins des victimes, mais on a aussi les orphelins des terroristes. Qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants, de cette génération d'enfants? Est-ce qu'on va s'en occuper? et les prendre en charge pour pouvoir les accompagner jusqu'à leur âge adulte, en faisant en sorte qu'ils puissent communiquer ensemble, ou bien on va les laisser chacun dans son coin s'alimenter de haine encore, de non-dit, de non-vérité, de vérité masquée, d'une histoire qu'il ne veut pas se raconter, et ça va être dramatique encore dans quelques années, ça peut encore s'enflammer.
Soumia,
oui,
vous avez quelque chose à ajouter?
Oui, moi, ce que je voudrais dire, pour ce qui me concerne, je ne suis pas une, je ne représente, enfin, je n'appartiens pas à un parti, je ne.
Moi non plus.
Oui, je sais. Non, c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à la place que j'occupe, à la place qui est la mienne, comme toi, tu as ta place qui est la tienne. Voilà, et en tant que cinéaste. Donc moi, si vous voulez. Mon lieu est l'écriture et je me situe donc comment dire dans ce lieu, et je suis peut-être plus marquée, plus portée par l'ambivalence, par la contradiction de la vie, de la réalité.
Mais une contradiction heureuse, c'est-à-dire des forces qui, même contradictoires, finissent par créer un tout favorable.
Oui, il y a ça aussi, parce qu'il y a la culture qui s'exprime. L'Algérie, c'est aussi ses journalistes, sa presse. L'Algérie, c'est ses écrivains, c'est ses artistes. La preuve, c'est pour ça aussi qu'on est. Moi, je suis pour l'année de l'Algérie. C'est pour ça, c'est pour voir aussi cette Algérie-là. C'est en même temps donc la violence, la mort, le terrorisme, mais aussi cette vie-là. Moi, je suis une femme qui écrit. Et je veux, voilà, être vue comme ça, une femme qui écrit, qui veut partager, qui veut donner à lire.
Voilà, l'Algérie, c'est sa culture, dont figure un de ses représentants assez drôle, il s'appelle Fellag. Oui.
Les Portugais sont venus, on les a sortis. Les Espagnols sont venus, on les a sortis. Les Français sont venus, on les a sortis. Si vous avez été gentils juste un peu, il y avait de la place pour tout le monde. Alors, quand on a sorti les Français, on attendait qui c'est qui va venir. Il n'y a personne qui vient. Mais on va s'ennuyer. Tu regardes à droite, Mohamed les moustaches. Tu regardes à gauche, Mohamed les moustaches. Tu te regardes toi-même, Mohamed les moustaches. Eh bien, puisque c'est comme ça, plus personne ne vient. Pour l'ambiance, eh bien, on va se sortir nous-mêmes. On va s'auto-sortir. Allez, dégage Nal Waldi. Fous le camp, mes crayons, y'a qu'à faire un poste Nal. La preuve, vous êtes tous là, les gars.
Est-ce que ça, c'est un humour algérien?
Oui, c'est un humour algérien. C'est important, l'humour algérien.
Comment le définir? C'est l'autodérision?
C'est l'autodérision. Et en plus, comme on dit chez nous,
rit ma bouche de mon malheur.
Donc ça permet aussi de décompresser, de pouvoir continuer. C'est pour ça que j'ai dans l'Achida, j'ai utilisé beaucoup cet humour. Je voulais aussi, à travers le film, montrer toutes ces contradictions de cette société aussi. Et ce n'est pas, quand on parle du film, on a l'impression que c'est un film sur le terrorisme, que sur le terrorisme. Non, c'est un film sur la vie. Comment les gens, parce que quand on voit l'Algérie depuis des années, si réellement il n'y avait pas ce potentiel de gens qui ont résisté chacun à sa manière, avec ses, bien sûr,
c'est
avec
ça,
sa
la
lâcheté,
vie, hein,
avec ses lâchetés, avec ses doutes, avec ses peurs, avec des fois son courage, au bout de 6 mois, ça aurait été le chaos. L'Algérie aurait sombré dans le chaos. Ça fait 10 ans que l'Algérie est dans une violence extrême. Et les gens continuent, et la preuve, moi je suis là, j'ai fait un film, Soumia a pu écrire, les enfants continuent à aller à l'école, donc il y a tout ce potentiel.
La vie est plus forte,
c'est important, la vie est plus forte. Et je pense que l'Algérie, j'ai comme l'impression qu'on est un peuple habitué à se battre tout le temps, et j'espère que ça va s'arrêter un jour où on se battra pour la beauté et non pas avec des armes.
10h-10 sur France Inter, voici Serge Gainsbourg.
Ça s'appelle L'Anamour. Bonne matinée à vous.
Aucun Boeing sur mon transit. Aucun bateau sur mon transat. Je cherche en vain la portée exacte. Je cherche en vain le Moïsit. Je chante pour les transistors. Ce récit de l'étrange histoire. T'es un amour transitoire, de belle au bois dormant qui va. Je t'aime mais je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavot sur les pavés de ma lave. Tu sais ces photos de l'Asie que j'ai prises à 200 ans. Que tu n'es pas là, leur couleur vive mon palis. J'ai cru entendre les hélices d'un quadrimoteur, mais hélas, c'est un ventilateur qui passe au ciel du poste de police. De m'égarer, et je sème des grains de pavot sur les pavés de l'amour.
Serge Gainsbourg et aussi Nicolas Poincaré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Pascal.
Une période assez particulière, l'avant-guerre possible,
l'avant-guerre, sans doute, ouais.
Présumé, l'intervention américaine et qui voudra de plus en Irak. C'est une période particulière parce qu'il y a beaucoup de mensonges dans l'histoire.
Oui, je crois qu'on est en train d'une période de forte turbulence en ce qui concerne la vérité. Et effectivement, on a commencé à beaucoup mentir. Alors une petite liste... pas exhaustive, hein, une petite liste comme ça, des choses au fur et à mesure qu'elles me viennent à l'idée. Les Irakiens, c'est peut-être même pas la peine d'en parler, on le sait qu'ils mentent, on le sait, c'est une dictature. Un seul mensonge, Saddam Hussein élu avec 100% des voix, pas 99,999, 100% des voix en octobre dernier. Évidemment, Saddam Hussein n'a pas
été... Mais vous n'y croyez pas.
Non, j'y crois pas. Les mensonges américains, c'est sans doute plus intéressant, parce qu'il y a une grosse culture de la vérité aux États-Unis. On ment pas facilement, et pourtant on ment. Donald Rumsfeld, le secrétaire d'État, l'a dit, il a prévenu, il a eu cette naïveté de dire, on va faire un institut d'influence stratégique pour essayer de faire valoir nos arguments, et on n'hésitera pas à utiliser le mensonge pour faire passer nos idées, c'est-à-dire que cette guerre est nécessaire.
Donc là, c'est un mensonge affiché.
C'est un mensonge affiché, ça a fait un petit scandale aux États-Unis. Rumsfeld l'a dit, on va changer le nom de cet institut, et puis après il a rajouté, mais on fera ce qu'on a envie de faire. Bon, on le sait maintenant, il faut du recul pour ces choses-là, c'est difficile de décrypter les mensonges d'aujourd'hui, mais on peut décrypter ceux d'hier. Au moment de la guerre du Golfe, il y en avait quand même eu des célébrissimes qui ont été décryptés, qu'on connaît maintenant par cœur.
Par exemple?
Comme par exemple les bébés de l'hôpital de Kuwait City. Les Irakiens seraient arrivés à l'hôpital et auraient enlevé les bébés des couveuses. On avait parlé à l'époque de 36 bébés retirés des couveuses et laissés. Bon, c'était un mensonge, on le sait maintenant, organisé par une agence de publicité, Hillen Norton, aux États-Unis, avec l'aide d'un témoignage qui était celui de la fille de l'ambassadeur koweïtien, qui a témoigné devant une commission d'enquête du Sénat, les larmes aux yeux, une fille de 15 ans qui disait être infirmière à l'hôpital et avoir vu de ses yeux vus. On sait qu'à l'époque où ça... Les faits, elle était bien tranquillement dans une université américaine. Ça, c'est un mensonge qui a été décortiqué. Il y en a eu d'autres à l'époque sur la marée noire, sur un certain nombre de choses. Alors, ce dont on parle moins et qui me frappe moi aussi, c'est les mensonges aussi les nôtres. C'est-à-dire ici, en Europe, où l'opinion est plutôt pacifiste, surtout en France.
En tout cas, anti-guerre.
Anti-guerre, disons. Eh bien, il y en a aussi beaucoup. Je trouve que il y en a un notamment qui est frappant, qui est celui qui consiste à nous annoncer à l'avance les dégâts que vont faire cette guerre. Et c'est quelque chose de récurrent. Quand on n'aime pas la guerre, on prévient d'avance qu'elle est infaisable et qu'elle va être monstrueuse. Par exemple, avant la première guerre en Irak en 91, on avait dit que c'était la quatrième armée du monde et qu'il fallait surtout pas aller faire la guerre, que c'était impossible de faire la guerre aux Irakiens. Avant la Bosnie, on a dit même Hitler n'a pas réussi en Bosnie, dans les montagnes, etc. Si on y va, ce serait une catastrophe. Résultat, quand quand les Américains y sont allés, en trois mois, c'était terminé. Après, il y a eu la guerre au Kosovo, où on a dit c'est le cœur de la Serbie, les Serbes ne se retireront jamais, ça va durer des années, on va s'enliser. En trois mois, c'était terminé. Après, il y a eu la guerre en Afghanistan, on a dit les Russes s'y sont enlisés 20 ans, si les Américains y vont, ce sera une catastrophe pour eux. En trois mois, c'était terminé. Et là, de nouveau, je trouve qu'il y a ce message récurrent qui revient tout le temps, qui consiste à nous dire cette guerre va être catastrophique. Et il y a un chiffre qui m'énerve, il y a un chiffre qui revient, je sais pas pourquoi, j'ai regardé beaucoup sur Internet cette nuit, ça revient tout le temps, c'est 500 000. On nous prévient qu'il y aura 500 000 morts s'il y a la guerre. Il y a des pacifistes qui sont partis de Londres ce week-end et qui disent on part se battre contre cette guerre qui va faire 500 000 morts si on ne fait rien.
C'est sorti d'où, c'est difficile à dire.
Non, il y avait un auditeur hier matin dans Radiocom qui, sans être contredit, a dit que les bombardements américains depuis la dernière guerre, les bombardements qui se sont poursuivis au cours de ces dernières années, avaient fait 500 000 morts. Je ne sais pas d'où sort ce chiffre. On nous dit que l'embargo depuis 91 a tué 500 000 enfants irakiens. Voilà, ce chiffre revient tout le temps et il est assez énervant parce que la réalité c'est qu'on n'en sait rien du tout, quoi. Moi j'étais assez frappé d'entendre nos invités qui avaient pas besoin d'exagérer quand elle parlait de l'Algérie. À l'instant, vous avez dit, on a eu des milliers de morts en Algérie. Ça suffit. On n'a pas besoin d'inventer des 500 000 ou des millions, quoi. Sur l'Irak, en ce moment, on est en train de nous inventer par avance un bilan catastrophique.
Comment faire pour tenter d'être à peu près informé? Il faut se fabriquer son propre parcours.
Douter de tout. Moi, je crois que quand les Américains vont commencer cette guerre, s'ils la commencent, ils mentiront, on le sait. Je pense que les bilans qui seront donnés en face par les Irakiens seront mensongers. Je pense qu'en toute bonne foi, les envoyés spéciaux en Irak, s'il y en a, seront manipulés et amenés à nous donner des contre-vérités. Et je crois que si cette guerre commence, il faut juste se dire qu'on passera par une sorte de trou noir, un peu comme les navettes spatiales qui cessent de communiquer entre le moment où elles rentrent dans l'atmosphère, quand tout se passe bien. Et en cas de guerre, il y aura ce trou noir équivalent, cette période où on ne saura rien en réalité.
Voilà, attendez-vous à ne pas savoir. Merci à nos deux invités, Yamina Bacherchoui. Rachida est toujours à l'affiche.
Oui.
Donc seulement on allait le voir éventuellement.
Pour les retardataires, oui.
Et Soumia Marcoja qui signe Rien ne me manque, un recueil de nouvelles aux éditions du Reflet. Merci également.
Merci à vous.
Tam Tam était réalisé par Antoine Dabrowski avec Antoine Viossa et Michel Thomas. Grâce à Jean-Michel Montu, vous avez entendu ce matin Massive Attack, Chivari et Serge Gainsbourg. Merci à Florence Gimalac, Fanny Leroy-Fenech, Aurélie Boiseau et Raïssa Blankoff. Tam Tam revient demain avec le réalisateur Lucas Bellevaux. Nous ferons en sa compagnie un bilan de sa trilogie. Elle est sortie il y a déjà un mois, mais lui, il y a passé quelque chose comme 8 années, donc on peut bien déborder d'un mois. Ce sera dans Tam Tam demain matin. À suivre sur France Inter, Patricia Martin, Alter Ego, portez-vous bien.